gloire au Seigneur.
Alléluia.
Oh, merci Jésus. Je vous prie de vous rasseoir tout en demeurant dans cette attitude de prière. Nous sommes dans sa présence. Nous voulons demeurer dans sa présence afin de recevoir sa parole en étant dans sa présence. Nous venons de le chanter, tout lui est soumis. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre ou dans tout l'univers, tout est soumis à celui qui nous rassemble ce matin. Tout est soumis à l'autorité de celui qui est assis sur le trône et qui, de son trône, étend son règne sur toute chose. Quelle vérité extraordinaire, mes amis, de nature à consoler tous ceux qui passent par des moments difficiles. Quelle vérité extraordinaire, susceptible de nous aider à aller de l'avant, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons. Il n'y a rien qui échappe au contrôle du Seigneur. C'est vrai que c'est difficile, difficile d'adhérer à une telle déclaration lorsqu'on voit la misère autour de nous, lorsqu'on voit le pauvre, le faible, de plus en plus méprisé, dominé par ceux qui ont le pouvoir, lorsqu'on voit toutes sortes de choses terribles autour de nous, lorsqu'on voit dans notre propre vie que l'épreuve se poursuit, que les montagnes sont de plus en plus grandes devant nous. Quand on voit tout cela et qu'on entend que Dieu est capable de tout, que tout lui est soumis, quelquefois on a de la peine à croire. Mais mon frère et ma sœur, je voudrais te rassurer ce matin. Tant que tu es avec le Seigneur, tant que tu restes attaché à lui, eh bien, rien ne pourra triompher de toi. Tant que tu es avec lui, eh bien, toutes ces épreuves font partie du plan, de son plan pour ta vie. Persévère. Continue ta marche. Et de toute façon, le Seigneur ne nous a jamais promis une vie facile. Voyez-vous? Nous sommes donc dans sa présence et nous aimerions nous préparer à écouter sa parole. Nous voulons que par son esprit, il puisse nous parler, qu'il puisse se manifester au travers de sa parole, que par sa parole, il puisse édifier notre foi, que par sa parole, nous puissions manger véritablement, car elle est une nourriture pour notre âme. Elle est source de bénédiction pour notre corps. C'est devant toi, Seigneur, que nous nous trouvons et que nous voulons demeurer alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à écouter ta parole. Nous savons combien cette parole est puissante, efficace, combien par elle tu accomplis ton œuvre dans chacune de nos vies. Pour que, Seigneur, cette parole puisse avoir un impact immédiat dans chacun de nous, nous avons besoin de rester ouverts à toi. Nous avons besoin, Seigneur, ô Dieu, de rester très attentifs alors que ta parole sera prêchée. Nous avons besoin de te tendre une oreille attentive. Seigneur, nous avons besoin que toute notre attention soit tournée vers toi. Alors garde-nous, Seigneur, de toute distraction, quelle qu'elle soit. Aide-nous à demeurer, ô Dieu, là devant toi, Seigneur, et à manger tout ce qui sortira de ta bouche, à recevoir toute vérité comme étant de nature à accomplir ton œuvre de grâce dans chacun de nous. Bénis ton serviteur. Aide-le, Seigneur, à partager ta parole de manière à ce que ton peuple en soit édifié. Répands sur lui ton onction, Seigneur, car il en a besoin. Répands la même onction sur ton peuple, car ton peuple en a besoin. Nous voulons tous ensemble, Seigneur, avoir nos regards, nos yeux fixés sur toi, alors que nous allons entendre ta parole. Merci de la bénir, de l'imprimer, ô Dieu, avec le laser de l'Esprit dans nos cœurs. Seigneur, que cette parole accomplisse ton plan merveilleux. Merci Jésus. Bénis-la en ton nom, Maître. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Je voudrais parler ce matin d'une pensée qui rejoint celle que nous avons partagée pendant deux dimanches. Vous rappelez la nécessité d'expérimenter la mise à mort du Seigneur, c'est-à-dire la nécrosis ou l'agonie du Seigneur dans notre vie, afin aussi d'expérimenter, afin aussi de voir sa puissance se manifester dans notre vie. Je vais donc rester dans ces registres-là et voir une fois de plus combien, mes amis, cela est bénéfique pour chacun de nous, combien cela est appelé à être une expérience de nature à nous marquer pour le restant de notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons donc voir aujourd'hui quelques vérités qui vont de nouveau nous permettre de réaliser que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Alléluia. Que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, qui est à l'œuvre dans notre vie, eh bien, poursuit un plan, poursuit des objectifs très clairs. Et quelquefois, il n'est pas toujours facile de comprendre le but que Dieu poursuit en permettant telle ou telle autre épreuve. Mais ce qu'il attend de nous, mes amis, c'est que nous continuions, c'est que nous poursuivions notre marche en continuant à lui faire confiance. Il est tout à fait sage pour savoir ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Il est tout à fait sage et conscient de tout ce qu'il permet autour de nous, même lorsque cela est au-delà de la raison humaine, lorsque cela est au-delà de notre propre compréhension. Je voudrais parler ce matin de la nécessité pour tout enfant de Dieu de faire l'expérience du transvasement, être transvasé d'un récipient à un autre, afin que notre vie soit épurée, afin que la lie, toutes ces choses négatives qu'il y a dans nos vies, puissent disparaître au fur et à mesure que le Seigneur nous transvase. Alors le thème, nous le tirons donc de Jérémie chapitre 18, le transvasement, une nécessité pour le chrétien. Jérémie 48, versets 11 à 13. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'a pas été vidé d'un récipient dans un autre. Et n'est pas allé en déportation. Résultat, son goût est resté et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici que le jour vienne, oracle du Seigneur, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses récipients et feront éclater ses outres. Moab aura honte de Kémosh, quand la maison d'Israël a eu honte de Bethel, objet de sa confiance. Quelle était la nature de Moab, pour aller plus vite? Pourquoi devait-il être transphasé, être vidé et versé d'un récipient dans un autre? Eh bien, la réponse se trouve au verset 29 que nous lisons du même chapitre. Nous avons appris l'orgueil de Moab, un orgueil extrême, son arrogance, son orgueil, sa fierté et son cœur altier. Le transvasement, une nécessité pour chacun de nous. Ce thème rejoint, frères et sœurs, ou complète, ou va compléter tout ce que nous avons vu il y a deux semaines, pendant deux semaines, concernant la nécessité de pouvoir, eh bien, vivre en amont la mise à mort, l'agonie de Jésus-Christ, afin que nous puissions assister à une démonstration de puissance en aval. Et nous l'avons vu, frères et sœurs, que la mise à mort devient une réalité. La nécrosis du Seigneur se déclenche en nous, ce processus-là devient une réalité en nous lorsque nous passons par des moments d'épreuve. Lorsque nous rencontrons l'opposition, quelle que soit sa nature, lorsque nous traversons le désert, lorsque, mes amis, nous sommes comme comprimés par toutes ces difficultés, alors le moi va de plus en plus mourir. Et la mort du moi, que la parole de Dieu appelle la crucifixion du moi, ou que nous pourrions appeler, eh bien, la mise à mort, la nécrosie de Jésus, ce processus-là va avoir, mes amis, pour corollaire, pour conséquence évidente, que nous vivions, que nous voyons la puissance du Seigneur se manifester face à nos épreuves, face à notre souffrance, face à nos difficultés, bref, face à l'épreuve. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que le vase soit brisé, n'est-ce pas? Et c'est de cette manière que nous pourrions expérimenter au quotidien la victoire du Seigneur. Car lorsque nous parlons de la manifestation de Jésus-Christ, nous parlons, mes amis, de sa vie victorieuse, sa vie de triomphe. Alléluia. Quand la vie de Jésus se manifeste, quelle que soit la montagne qu'il y a devant nous, eh bien, cette montagne est jetée dans la mer. Quand la vie de Jésus se manifeste, quand sa puissance jaillit, eh bien, tout devient possible pour nous. Alléluia. Israël était dans le désert. Et Israël a vécu cette démonstration de puissance. La Bible nous dit que Dieu leur envoyait la manne. Dieu leur envoyait des cailles. Ils ont mangé à leur faim. Et pourtant, il n'y avait pas de supermarché. Il n'y avait pas de marché. Et pourtant, ils ne s'aimaient pas. Ils étaient en route vers la terre promise. Donc Dieu leur a démontré de quoi il était capable. Alléluia. Vivre la manifestation de la puissance de Jésus veut dire vivre la victoire du Seigneur en face de toutes sortes d'épreuves. Puisque ce processus doit se déclencher, eh bien nous voyons alors la raison d'être des épreuves. La raison d'être des difficultés, la raison d'être de tous ceux qui s'opposent à nous. Car cela fait partie du plan global que le Seigneur a pour notre vie. Alléluia. Mais il y a un autre bénéfice de cette expérience de mise à mort. Voyez-vous? Il y a aussi, une autre conséquence. Et c'est de cette conséquence dont il va être question aujourd'hui. Alléluia. À partir de ce thème, à partir de l'expérience de Moab, nous allons voir que là aussi, cette mise à mort qui est exprimée ici par le transvasement est une nécessité parce que cela concerne notre être. Alléluia. Non seulement la puissance se manifeste pour dégager les montagnes. Non seulement la puissance du Seigneur se manifeste, sa gloire se manifeste pour nous apporter des solutions, même lorsque nous sommes dans un désert, mais cette puissance a d'abord des effets sur notre propre personne. Gloire à Dieu, alléluia. Il est toujours important, frères et sœurs, de savoir pourquoi Dieu nous a sauvés. Quel est le but ultime? Quel est l'objectif ultime que le Seigneur poursuit dans notre vie? Tant que nous n'aurons pas compris cela, eh bien nous aurons de la peine à accepter que des épreuves surviennent dans notre vie. Nous aurons de la peine à comprendre pourquoi la souffrance frappe à notre porte. Pourquoi, mes amis, nous subissons l'humiliation? Pourquoi nous rencontrons l'opposition? Pourquoi toutes sortes d'obstacles se dressent devant nous? Alors que le Seigneur est avec nous, lui qui est tout puissant, n'est-ce pas? Il est donc important que nous comprenions le but ultime que le Seigneur poursuit dans notre vie. Pour aller plus vite, eh bien nous devons savoir une chose. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, en Christ évidemment, il les a prédestinés, non pas à mener une vie d'exubérance matérielle, non pas à... Non, il ne les a pas prédestinés à connaître une vie immunisée contre la souffrance, immunisée contre telle ou telle autre épreuve. Pas du tout. Ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, mes amis, le but que Dieu poursuit Il faut que notre être ressemble davantage à Christ. Et pour cela, mes amis, nous devons être transphasés d'un vase dans un autre vase. Et à chaque fois que cette expérience a lieu, à chaque fois que nous sommes transphasés d'un vase à un autre, eh bien, notre vie est épurée. Notre vie va ressembler davantage à l'image de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour que ce transvasement puisse, mes amis, avoir lieu, il faut que les épreuves soient là. Il faut que les difficultés soient là. Il faut, mes amis, que l'opposition soit rencontrée. Afin que le moi en nous soit débarrassé de tous ces éléments qui le conduisent à la mort. De tous ces éléments qui sont des véritables abominations aux yeux de Dieu. Car à cause du péché en nous, mes amis, le goût de notre vie est un goût amer et insupportable aux yeux de Dieu. À cause du péché, de la rébellion dans nos cœurs, de la nature même du moi, eh bien le goût, non seulement le goût, mais l'odeur que nous dégageons est une odeur pestilentielle aux yeux de Dieu, putride, nauséabonde, dégoûtante, écœurante aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être transphasés. Car à chaque fois que nous sommes transphasés d'un esprit à un autre, eh bien notre goût change, alléluia. Notre odeur change également. Et l'odeur du Christ, le parfum du Christ, va commencer à devenir une réalité dans notre vie. Et lorsque nous répandons, mes amis, l'odeur du parfum de Christ, alors nous répandons la vie autour de nous. Non seulement nous devenons une bénédiction pour le Seigneur, nos vies, eh bien, deviennent de source de joie pour le Seigneur, cela va aussi avoir des répercussions dans nos rapports mutuels, sur notre environnement. L'environnement profitera de ce parfum suave, de cette odeur merveilleuse qui va donc se dégager de notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous devons être transphasés. Voyez ? Et la seule manière d'être transphasés, en d'autres mots, la seule manière, mes amis, de croître et de ressembler davantage au Seigneur, eh bien, c'est de se heurter à la résistance, à l'opposition. Alléluia. C'est de se heurter à ce chose qui nous contrarie, à ce chose qui révèle nos faiblesses, qui révèle le vrai goût de notre vie, la vraie odeur qui émane de notre personne. Il faut que nous soyons confrontés aux épreuves et aux problèmes. Voilà pourquoi l'apôtre pouvait dire aux Romains, voyez, dans ce contexte, où il dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, il ajoutera en disant, ainsi, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans son plan, eh bien, ces choses-là, quelles sont ces choses? L'angoisse. Quelles sont ces choses? La tribulation, la persécution, les dénuements, l'humiliation, l'opposition, mes amis, toutes ces choses-là, l'apôtre dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Parce que ces choses, mes amis, eh bien, contribuent à notre transvasement. Ainsi, ces difficultés, telle difficulté X, nous permet d'être transvasés du vase X vers le vase Y. Et puis du vase Y vers un autre vase. Ainsi de suite, mes amis. Et tout au long de notre vie, nous aurons besoin d'être de plus en plus transphasés afin que nos moi, ce moi arrogant, ce moi qui souffre de morgue, ce moi suffisant, ce moi fier, ce moi, eh bien, qui est incapable d'accomplir l'œuvre de l'Esprit, il faut que ce moi abdique, il faut que ce moi meure. Et ce sont les épreuves que le Seigneur permet qui vont donc déclencher ce processus de la mort du moi en amont, afin que la vie du Christ soit vécue en aval. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut que nous heurtions, que nous rencontrions la résistance, l'opposition. C'est important, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas facile. Mais c'est de cette manière que le Seigneur poursuit le but qu'il a dans ta vie. Continue à t'abandonner entre tes mains et son plan s'accomplira jour après jour. Alléluia. Mais dans les larmes, dans les questionnements, eh bien, il est là. Il sait ce qu'il est en train de faire. Gloire à Dieu. Parce qu'il en est ainsi, eh bien, l'apôtre Jacques pouvait dire, s'adressant aux lecteurs, et au-delà de ces lecteurs, le Saint-Esprit s'adresse en nous à propos de ces épreuves. Eh bien, l'apôtre Jacques a dit, « Considérez, mes frères, comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. » Alléluia. Il ne nous pousse pas au stoïcisme. Voyez-vous? Et Jacques parle avec certitude. Il ne présente pas les épreuves comme étant hypothétiques. Voyez-vous? Pas du tout. Il est certain que cela arrivera. Et il nous donne même l'attitude que nous devrions avoir lorsque nous serons confrontés à l'épreuve. Considérez cela comme quoi? Comme un sujet de joie complète. Car les épreuves sont la mise à l'épreuve de notre foi. Alléluia. Il faut que notre foi soit éprouvée. Il faut que notre foi soit transvasée d'un vase à un autre. C'est ainsi que notre foi va grandir. C'est en se heurtant, mes amis, à la résistance. C'est en rencontrant l'opposition que notre foi va s'affermir. Alléluia. Que nous serons de plus en plus rendus capables de pouvoir nous approprier des promesses de Dieu. Regardez le corps humain. Votre corps, mon corps. Eh bien, pour se développer, pour avoir des muscles de plus en plus, ce corps, mes amis, a besoin d'être soumis à la résistance. Oui ou non? Ceux qui font l'haltérophilie, par exemple, vous le voyez prendre des poids. Ce sont des choses qui demandent beaucoup d'efforts, oui ou non? Donc ces choses entraînent une résistance, voyez-vous? Et à force de le faire, eh bien le corps va se développer. Ainsi l'homme ou la femme qui se livre à ce genre d'exercice, eh bien va voir ses muscles gagner en force, gagner en puissance, voyez-vous? Parce que le corps est soumis à la résistance. On soulève de choses de plus en plus lourdes, vous voyez? Et à force de le faire, eh bien, notre corps va se développer. Alléluia! Nous deviendrons de plus en plus musclés, voyez? Mais si, vous dites, bon voilà, je vais, moi, soulever une rame de papier 10 fois par jour, même 100 fois par jour, vous prenez, vous déposez, non? Même avec les doigts. Mais vous ne vous développerez jamais, oui ou non? Donc vous pouvez prendre 100 fois. Parce que les quelques papiers, les quelques dizaines de papiers, ou même des centaines de papiers, eh bien, n'exercent pas une résistance sur vos muscles. Voyez-vous? Il faut prendre de poids, des choses qui sont lourdes, des objets qui sont lourds. C'est seulement de cette manière, mes amis, que vous allez développer vos muscles, que vous allez les fortifier, alléluia, que vous serez en mesure et vous verrez que vous allez commencer avec de petits poids et puis par après, vous allez augmenter parce que vous gagnerez de plus en plus en muscles. Il en est de même, mes amis, de notre être intérieur. Lorsqu'il est de plus en plus soumis à la pression, notre foi croît. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'épreuve de la foi vaut plus que, mes amis, tout l'or de ce monde. Il faut que la persévérance accomplisse son œuvre complète. Voyez? C'est-à-dire, la foi est éprouvée. La mise à l'épreuve de notre foi doit produire la persévérance. Voyez? Et la persévérance va avoir pour résultat, c'est que nous allons, mes amis, devenir de plus en plus qualifiés pour le Seigneur. Et nous ne manquerons de rien. C'est ce que Jacques nous dit. Pourquoi? Parce que notre foi grandissant, nous serons en mesure de nous approprier de toutes les promesses de Dieu. Alléluia! C'est la foi, mes amis, qui fait la différence. Mais cette foi doit grandir. Cette foi, eh bien, doit être éprouvée. Et c'est au travers des épreuves. C'est pourquoi n'essayez pas de choisir de petits sentiers pour éviter le chemin que le Seigneur a tracé pour vous. Ne versez pas dans la débrouillardise. Vous vous rendriez, mon frère et ma sœur, un très très mauvais service. Continuez à aller tout droit, à affronter l'épreuve, à affronter ce qui vous résiste. C'est de cette manière que l'homme intérieur en vous, celui qui est à l'image du Seigneur, grandira de plus en plus. Alléluia. Moab devait être transphasé parce que son goût était un goût mauvais, était un goût amer. Il devait être transphasé. Pourquoi? Parce que son odeur était une odeur infecte, une odeur d'orgueil, une odeur de morgue, de suffisance, de fierté. Vous voyez? Restons un tout petit peu sur ce peuple que Moab, quelle image de l'homme, imbu de lui-même, qui n'a jamais connu le transvasement. Il faut savoir que, d'abord comprendre l'héritage spirituel et moral, ou je dirais même génétique, l'ADN de Moab, hein, pour rester un peu dans son ADN spirituel et naturel, pour comprendre un tout petit peu la nature de Moab, comprendre son orgueil, comprendre sa déchéance. Eh bien, Moab a été, si vous voulez, le résultat, le fruit d'une relation incestueuse entre Lot et une de ses filles. Vous voyez, tout est parti de là. Vous voyez, Lot a eu des rapports avec sa propre fille. Résultat, Moab a vu le jour. Et par Moab, eh bien, tout un peuple verra le jour. Ce qu'on appelle dans la parole de Dieu les Moabites, qui d'ailleurs ont disparu en tant que nation. Ils ont complètement disparu. Ce Moabite avait pour Dieu Kemosh, celui dont il est question au verset 13. Vous voyez? Et Kemosh, donc, était leur divinité principale. Et lors de culte à Kemosh, il arrivait que les Moabites sacrifient des enfants, leur donnent comme offrande à Kemosh. Quelle idolâtrie, mes amis! Voyez-vous? Donc, Moab, orgueilleux. Moab suffisant, Moab fier, imbu de lui-même. Et le verdict du Seigneur va donc tomber. Puisqu'il n'avait pas connu l'épreuve, le fait d'être exilé, puisqu'il n'avait pas été secoué dans sa confiance, eh bien la Bible nous dit que son goût et son odeur lui sont restés. Et à cause de cela, eh bien le jugement de Dieu va tomber sur lui, et comme je vous ai dit, c'est une nation qui disparaîtra plus tard, et après on n'en a plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Voyez, la Bible nous dit qu'il aura honte de Kemosh, de son Dieu, comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel. Attention, il faut faire attention à cet endroit. Le prophète parle de Bethel, non pas l'endroit où Jacob, vous vous rappelez l'expérience de Jacob, le lieu qu'il avait appelé Bethel, la maison de Dieu. Ici, Bethel, eh bien, est un des sanctuaires idolâtres que Jéroboam avait fait construire en Samarie. Nous sommes à l'époque où il y a eu schisme en Israël. Désormais, il y a deux royaumes. Il y a le royaume du Nord, avec 10 tribus qu'on appelle Israël, et pour capitale Samarie, et le royaume du Sud, Juda, avec capitale Jérusalem. Mais c'est à Jérusalem qu'il y avait le temple. C'est donc à Jérusalem que les gens devaient aller pour adorer, pour présenter leurs sacrifices ou leurs offrandes au Seigneur. Mais Jéroboam, ayant eu peur, Satan dit, mais si je laisse les gens de mon royaume partir jusqu'à Jérusalem, ils pourraient finir par être tentés de s'attacher à Roboam, qui était donc le fils de Salomon. Alors pour éviter cela, il fit construire deux sanctuaires, l'un à Bethel, l'autre à Dan. Et dans les deux sanctuaires, il plaça un veau d'or. C'était donc une idolâtrie. Donc quand Dieu parle du peuple d'Israël qui avait eu honte de Bethel, c'est de ce Bethel idolâtre, un sanctuaire qu'il avait fait ériger. Il avait mis sur pied tout un système religieux. Il avait nommé lui-même des sacrificateurs. Quelle abomination, mes amis, quelle apostasie. Vous voyez? Donc, c'est de ça. Moab orgueilleux. Moab imbu de lui-même. Mes amis, quelle image de l'homme naturel. Même de celui qui est en Christ, mais qui n'est pas encore transvasé, vidé d'un récipient dans un autre, afin que la lie soit de plus en plus, eh bien, rejetée. Quelle image terrible, voyez-vous, d'un homme imbu de lui-même, d'un homme qui marche en comptant sur ses ressources, sur sa puissance cérébrale, sur sa position sociale, sur sa position politique. Voyez, Moab était très sûr, mais Moab avait oublié qu'il y avait au-dessus de lui quelqu'un qui dirigeait toutes choses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes amis, voyons que ce passage décrit la condition de quelqu'un qui n'a pas été changé, qui n'a pas été métamorphosé. Or, vous et moi, nous sommes appelés, mes amis, à ressembler à Jésus en tout. Ceux qu'il a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Voilà, mes amis, l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans chacun de nous. C'est pour nous faire ressembler à Jésus. Voyez? C'est donc le résultat de la mise à mort du Christ sur nous-mêmes. C'est-à-dire, cette mise à mort, cette nécrosis du Christ, eh bien, nous transforme à l'image de notre Maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on n'est pas transvasé, eh bien, notre goût et notre odeur, autrement dit, notre personnalité et notre caractère demeurent identiques et inchangés. Et naturellement parlant, l'homme a un caractère qui ne peut pas glorifier le Seigneur. Naturellement parlant, l'homme dégage un goût amer aux yeux de son Créateur. Il a donc besoin de mourir. Voilà donc la nécessité du brisement dont nous avons parlé la fois dernière. Le vase d'argile dans lequel se trouve le trésor doit donc être brisé. Et les changements sont parfois pénibles, mais ils finissent par tremper le caractère. Alléluia. Voyez-vous, nous devons nous abandonner entre mains du Seigneur pour qu'il continue ce processus de transvasement, qu'il continue à nous vider d'un récipient dans un autre. Voyez-vous? Et c'est comme ça, mes amis, que nous deviendrons de plus en plus forts, que nous aurons un caractère qui reflète la gloire du Seigneur, que notre foi sera de plus en plus affermie, gloire au Seigneur, et capable de déplacer les montagnes. Gloire à Dieu. Donc, nous devons grandir dans ce domaine-là. Et pour cela, eh bien, nous devons apprendre à dépenser. Car lorsqu'on est confronté à la résistance, eh bien, il y a là un combat qui s'installe, on se dépense, on dépense de l'énergie, eh bien, comme lors des exercices de musculation, et résultat, eh bien, on gagne en muscles, on gagne en forme physique, évidemment, et on peut donc avancer. Gloire à Dieu. Nous devons donc, que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan de l'Assemblée, être vidé, transvasé d'un vase à un autre. Afin que la lie, vous connaissez tous la lie, ce dépôt qui se dépose dans les liquides fermentés comme le vin, comme la bière. Quand vous regardez dans la bouteille, il y a toujours un dépôt, voyez, quelques résidus, là, dans le fond de la bouteille. Eh bien, il faut que cette lie soit ou parte. Et pour cela, il faut le transvasement. Nous naissons avec cette lie-là dans nos vies. Ce sont nos péchés, ce sont les traits de caractère charnels, c'est notre orgueil, c'est notre arrogance, notre morgue, notre fierté. C'est le fait d'avoir un cœur entier qui résume tout. Un cœur imbu de lui-même, un cœur suffisant, un cœur qui pense, qui cherche toujours à se mettre en évidence. Voyez-vous, nous devons donc être transphasés afin que le Seigneur nous rende plus forts. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chemin. Ces épreuves que tu rencontres, ces épreuves auxquelles tu fais face, cette opposition de plus en plus forte qui est là, eh bien, considère-la comme une opportunité de laisser le Seigneur te transvaser, te rendre encore plus fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, un célèbre prédicateur américain posa cette question au cours d'une prédication. Il s'adressait à un auditoire. Il leur posa cette question. Qu'est-ce qui rend les hommes grands? Voyez? Eh bien, il donna lui-même la réponse. Je vais vous le dire. Il dit les épreuves. Ce sont les épreuves qui rendent les hommes grands. Voyez? La grandeur. Ce sont les épreuves, comme je l'ai souligné, nous l'avons vu la fois dernière, eh bien, l'aspect de la vie du Seigneur qui a marqué l'histoire de l'humanité, dont on parle encore davantage aujourd'hui, et dont on verra les traces jusque dans l'éternité, c'est sa passion, sa souffrance, sa crucifixion, sa mort, et puis sa résurrection. Eh bien, il en est de même dans l'histoire des nations. Les plus grands présidents, des nations, mes amis, ceux qui ont fini par être honorés des dizaines d'années plus tard, ceux dont le nom figure dans les manuels d'histoire qui occupent de très bonnes places, eh bien, ce sont les présidents qui, dans la plupart des cas, ou souvent, ont donc dirigé leur pays pendant les heures sombres, pendant des moments de guerre, pendant des moments de crise économique, sociale, financière, pendant les moments des cataclysmes naturels ou des catastrophes naturelles, ils ont tout fait, ils ont géré tout cela. Eh bien, ce sont ceux-là qui ont marqué l'histoire. Prenez le cas, pour ne citer que deux dans l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln, George Washington. Ils ont dirigé les États-Unis à un moment terrible de crise sur tous les plans. En Grande-Bretagne, Winston Churchill. Vous voyez, si son nom est resté dans les annales de l'histoire, c'est parce qu'il est toujours celui qui a dirigé la Grande-Bretagne lors de la Deuxième Guerre mondiale, oui ou non. Vous voyez? Et on en parle encore aujourd'hui. Vous trouverez son nom dans pratiquement toutes les grandes villes d'Europe. En France, de Gaulle. C'est aussi un moment de crise, mes amis. Voyez-vous? Il s'est battu, s'est levé. Et plus tard, eh bien, il a marqué l'histoire de son pays. Plus proche de nous, Nelson Mandela. Il a dirigé le pays à un moment difficile. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une guerre civile. Entre d'un côté les blancs et les noirs, les métis, les indiens. Tout le monde s'attendait à ça, mes amis. Qu'ils viennent et qu'ils puissent se venger. Non! Il est arrivé, il a pris de la hauteur. Alléluia. Il a tout fait pour que noirs et blancs vivent ensemble. Et en ayant agi de cette manière, dans ces moments difficiles, mes amis, comment réconcilier les deux communautés qui se sont combattues pendant des décennies? Comment les mettre autour d'une même table? Mes amis, il a fallu beaucoup de sagesse. Il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sacrifices. Il a fallu qu'il se transcende lui-même. Car c'était le même régime qu'il avait persécuté. Il aurait pu dire, maintenant, c'est ma revanche. Voyez-vous, je vais tuer tous ces gens. Non, il s'est transcendé, mes amis. Il s'est élevé. Alléluia. Il s'est comporté en véritable homme politique. Et résultat, aujourd'hui, on parle de lui. Il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Mais quand vous allez en Afrique du Sud, vous trouvez déjà ces statues un peu partout. On parle de lui comme un héros national. Voyez, mes amis, pour être grand, il faut accepter de passer par les épreuves. Ce sont les épreuves qui vont te rendre grand. C'est au travers des épreuves que Dieu va vous façonner, que Dieu va vous rendre fort. Alléluia. C'est comme de l'or qui doit passer par le feu pour que toutes ces scories, toutes ces saletés, eh bien, soient dégagées. C'est seulement à ce prix-là que l'or peut briller. Alléluia. Et même acquérir une valeur extraordinaire. Dans la Bible, c'est la même chose. Nous avons parlé du Seigneur la fois dernière, très rapidement. Les prophètes qui ont marqué le plus l'histoire d'Israël. Les prophètes dont il va être question dans la suite concernant l'histoire du peuple d'Israël, ceux qui l'ont marqué, eh bien ce sont des prophètes qui ont exercé leur ministère dans des moments de crise. Que ça soit Jérémie, que ça soit, oui Jérémie, mes amis, Jérémie a souffert tout au long de sa vie. Jérémie a prêché la parole de Dieu pendant de nombreuses années. Il se plaint devant le Seigneur. Il a été persécuté, voyez-vous. Il n'a pas connu de répit durant son ministère. Il va même terminer sa vie, non pas sur la terre d'Israël, la terre de ses ancêtres. Nous le voyons entraîné par les autres Judéens en Égypte lors de la prise de Jérusalem en 586 par Nebuchadnezzar. Nous le trouvons parmi les gens qui vont fuir le pays, les Juifs qui vont quitter Israël pour fuir la destruction de Jérusalem, du temple, etc., et aller en Égypte. Voyez, quelle fin pour un homme qui avait été mis à part dès le sein de sa mère. Dès son bas âge, Dieu l'avait appelé, oui ou non? L'onction de Dieu était sur lui, oui ou non? Et pourtant, il a mal fini, hein? Voyez-vous? Nous, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui passe par les épreuves, il n'a pas de foi, Dieu l'aurait abandonné. Non! Il faut être transvasé! Alléluia! Il faut passer par ce moment-là! Il faut confronter l'adversité, la tribulation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans toutes ces choses, dans la tribulation, dans la persécution, dans les dénuements, dans nos moments de faiblesse, dans toutes ces choses, la parole de Dieu déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Car, dit l'apôtre, je suis persuadé, j'ai toute la conviction du ciel et de la terre, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, alléluia, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, ni aucune autre créature qui serait derrière une épreuve ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes frères, nous devons, mes sœurs, nous devons persévérer. Néhémie, Esdras, nous en parlons encore aujourd'hui. Ils ont dirigé le pays à un moment de crise, à un moment difficile. Tout avait été détruit. Il a fallu reconstruire, mes amis. Le prophète Élisée, c'est la même chose. Avant lui, Élie. Qu'est-ce qu'Élie n'a pas connu comme épreuve? Il est apparu à un moment où Achab régnait avec sa femme Jézabel. Où il y avait, mes amis, des cultes voués au Baal parmi le peuple de Dieu. C'est un moment de crise. Et aujourd'hui encore, nous parlons d'Élie. C'est peut-être une occasion que le Seigneur te donne de marquer l'histoire de ta famille en persévérant, en triomphant des épreuves. C'est peut-être une occasion que le Seigneur te donne de pouvoir marquer l'histoire de ton pays. Résiste! N'essaye pas de te compromettre. Reste fidèle à Dieu là où tu es. Tu n'as pas besoin d'utiliser la corruption. Sache que si Dieu t'a placé là et que tu rencontres la tempête, c'est que lui a permis cette tempête. Persévère, alléluia. Considérons pour terminer toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, tous ces problèmes que nous rencontrons, toute cette résistance, cette opposition qui se manifeste d'une manière ou d'une autre comme étant frères et sœurs. de cette occasion d'être versé d'un vase dans un autre. Alléluia. C'est comme ça que nous irons de gloire en gloire. Quand on parle d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a de plus en plus de difficultés. Mais par sa grâce, nous arrivons à triompher de ces difficultés. Alléluia. Acceptons d'être versés, mes amis, d'un vase dans un autre. C'est seulement à ce prix-là que nous serons métamorphosés, que nous serons transfigurés et que nous ressemblerons davantage à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, mes amis, est un bénéfice éternel. Notre être qui ressemble de plus en plus à Jésus, eh bien, il n'y a pas de plus grand trésor que celui-là. Il n'y a rien sur cette terre qui puisse, mes amis, équivaloir la vie de quelqu'un qui marche avec Christ. Alléluia. Il n'y a rien, mon frère, ma sœur. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Ne baisse pas les bras. Ne te résigne pas. N'abandonne pas. Ne démissionne pas. Continue à aller de l'avant. Au travers de ces difficultés, au travers de ces épreuves, Dieu te verse d'un vase dans un autre. Alléluia. Dieu te transphase. Dieu t'amène. C'est peut-être difficile de comprendre le plan qu'il poursuit, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne se trompe jamais dans l'accomplissement de ses desseins. Il ne se trompe jamais dans l'accomplissement de son plan. Il ne marche pas par à-coups, non, pas du tout. Il connaît toutes choses avant que toutes choses arrivent. Persévère. Tous ceux qui vivent en Jésus sont appelés donc, mes amis, à être transphasés. Et ceci n'est pas une opération facile. Elle est douloureuse. Elle nous fait mal. Elle nous contrarie. Elle cloue au pilori le moi. Elle amène le moi à abdiquer. Vous voyez? C'est de cette manière comprimée que le goût du moi, ce goût-là mauvais à cause du péché, ce goût de l'arrogance, ce goût de la suffisance, ce goût de la fierté, ce goût de l'orgueil, de la hauteur, tout cela, eh bien, c'est de cette manière, sous la pression des épreuves, des problèmes, que ce goût-là va disparaître et le goût du Christ va donc prendre place. Alléluia. Alors, n'hésitons pas, ou du moins ne résistons pas au Seigneur. Laissons le Seigneur poursuivre le but qu'il s'est assigné dans notre vie. Laissons le Seigneur nous conduire, nous transvaser, nous verser d'un vase dans un autre. C'est de cette manière que nous serons de plus en plus rendus purs. Et c'est cela même la sanctification. C'est un processus, n'est-ce pas? Et souvent, il faut que nous rencontrions la résistance pour que notre moi puisse abdiquer, pour que, mes amis, ce transvasement devienne une réalité dans nos vies. Et lorsque cela se passe, alors l'œuvre de Dieu, eh bien, se poursuit dans sa gloire, dans chacun de nous. Amen. Nous allons nous arrêter ici, incliner nos têtes dans la prière. Je voudrais encourager, une fois de plus, ceux qui peut-être ne comprennent pas cette opération de transvasement. Le fait d'être vidé d'un récipient à un autre, ce n'est pas facile. Voyez, on est dans un récipient, on s'y plaît, on a pris la forme du récipient. Et lorsqu'on doit quitter ce récipient, ça fait toujours mal. Mais il n'y a pas d'autre choix. Il faut absolument que nous passions par cette expérience. Il faut que nous mourions. Il faut que la mort du Christ fasse son travail. C'est ça le transvasement. C'est alors, mes amis, que notre être intérieur qui est en nous et à l'image du Christ sera renouvelé et ressemblera davantage à celui qui nous a tant aimés et qui a donné sa vie à la croix. Je voudrais prier pour tous ceux qui passent par des difficultés, ceux qui connaissent le désert, qui peut-être sont sur le point d'abandonner, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont l'impression que le vent souffle de plus en plus fort, parce qu'ils ont l'impression que la tempête se poursuit, leur barque est de plus en plus ballottée, et autour de leur barque, il y a des houles de plus en plus dangereuses et de plus en plus grandes. Et vous avez peur que ce houle puisse envahir votre barque et entraîner le naufrage. Mais ce matin, si vous êtes sûr que le Seigneur est dans la barque, quelle que soit la hauteur et l'intensité de la houle, votre barque poursuivra sa navigation. Alors, voulez-vous que nous prions pour vous afin que le Seigneur vous aide? Levez-vous là où vous êtes et nous allons prier pour vous. Merci pour ceux qui se lèvent. Ceux qui ont besoin d'être transvasés, ceux qui passent par la chaudière de l'épreuve, afin qui sont là, vous mettez debout afin que nous prions pour vous. Que le Seigneur vous soutienne. Veuillez lever vos mains, s'il vous plaît, et commencez à invoquer le Seigneur. Commencez à le remercier pour ses difficultés. Ça peut paraître paradoxal, voyez-vous. Mais la Bible nous demande de rendre grâce pour toutes choses. Car ces épreuves sont les moyens pour le Seigneur de pouvoir amorcer le processus de mise à mort de Christ en vous, afin que sa puissance puisse se manifester également dans votre vie. Mais plus que cela, eh bien, vous avez besoin d'être transphasé, afin que votre goût, votre personnalité, votre caractère change. Oh, merci, Père, pour toutes ces personnes qui se sont mises debout, oh Dieu, parce qu'ayant été interpellées par ta parole, elles réalisent, Seigneur, que toutes ces difficultés auxquelles elles sont confrontées, toute cette opposition qui est là devant elles, Seigneur, fait partie du plan que tu as pour leur vie. Oh, je prie pour que tu leur donnes la force de continuer, Seigneur, car c'est en se heurtant à cette opposition, à cette résistance, que leur foi va grandir. Et la foi grandissant, ils seront en mesure de pouvoir s'approprier de tes promesses et d'expérimenter, Seigneur, la manifestation de ta gloire et de ta puissance. Merci de les aider, Seigneur, et de continuer à les assister par ton esprit. Mets la paix dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Qu'ils sachent que tu es dans la barque, quelle que soit la taille de la barque. Seigneur, tant que tu es là, cette barque est appelée à arriver à bon port. Tant que tu es dans la barque, elle ne pourra jamais couler. Seigneur, donne-leur cette force, cette capacité à faire face à toutes ces épreuves, à prier pour tous ceux qui les persécutent. Seigneur, à ne pas sombrer à la tentation de les maudire. Car tu dis dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous n'avons aucune raison de maudire qui que ce soit. Seigneur, nous n'avons aucune raison, oh Dieu, de vouloir nous venger par nous-mêmes. Non! Seigneur, tu nous demandes simplement de nous confier en toi et de te laisser toi agir à notre place. Merci de bénir ce bien-aimé. Merci Jésus.